Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Emma Liechtenstein et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Mélodie Esman. Culture Monde aux couleurs des carnavals cette semaine, alors que s'est ouvert vendredi celui de Rio. Ce que ces fêtes populaires révèlent de rapports de force politique, qu'elles soient encouragées par les pouvoirs en place ou investies par des voix dissidentes. Nous parlions hier de la fête des morts au Mexique, dont le sens a changé sous la violence, les disparitions et les crimes quotidiens. Demain, il sera question de la Feria de Séville, une fête de l'entre-soi. Aujourd'hui, le carnaval de la Nouvelle-Orléans, il a lieu en ce moment et comme chaque année, des tribus fictives d'Indiens noirs revendiquent leur droit à être un autre.
Mon chant préféré est un chant Indian Red. C'est celui que l'on chante juste au moment de sortir dans la rue. C'est un appel à tous nos ancêtres, un appel à la protection pour ce jour. Ce chant est rempli d'émotions.
C'est un processus complet qui dure une année entière pour coudre à la main et ajouter des perles à la main sur ses costumes. Il y a une part d'Afrique dans ces costumes, une part qui vient des autochtones, une part qui vient des natifs. Et il y a aussi une part de l'innovation de la Nouvelle-Orléans. Tout cela est présent dans les costumes.
Les gens nous connaissent sous le nom des Mardi Gras Indians parce que l'on sortait pour Mardi Gras. On sortait à ce moment-là car on ne pouvait fêter Mardi Gras. Les Noirs n'étaient même pas autorisés à aller sur Canal Street pour fêter Mardi Gras.
Il faut d'abord planter le décor au cas où l'on aurait oublié ces images. La Nouvelle-Orléans sur les rives du Mississippi. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina fait sauter les digues reliées au lac Pontchartrain, au nord de la ville. En quelques heures, 80% des rues sont englouties sous les eaux. Laurent Godet écrit dans son livre Ouragan les quartiers noirs les plus immédiatement touchés. Ce pays en lambeaux qui continue à cracher sur ses nègres, comme le dit la vieille Joséphine enveloppée dans le drapeau américain pour entrer dans le bus qui l'évacue. Et la Louisiane monte avec moi, dit-elle. Les bayous, les jacinthes et leur odeur écœurante, le corps jamais retrouvé de mon mari, les regards d'insultes dans le bus et même le vent. Je ne laisse rien derrière moi. Depuis Katrina, la population de la Nouvelle-Orléans est à 58% composée d'Afro-Américains. Ils étaient 67% avant la catastrophe. Alors pourquoi raconter cela dans une émission sur le carnaval de la Nouvelle-Orléans qui a lieu en ce moment comme chaque année? Parce qu'historiquement, ce carnaval était réservé aux Blancs et que dans ses marges, dans les ruelles des quartiers ouvriers de la ville comme Trémé, Ward ou Carrollton, plusieurs communautés noires ont revendiqué leur droit de faire la fête. Parmi eux, les Black Indians, des néo-orléanais d'origine africaine mais qui se revendiquent soit des origines communes avec les Amérindiens, soit simplement des codes culturels communs, eux qui connaissent si bien ce qu'est de vivre à la marge, de vivre à la frontière. Bonjour Éric Douady.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, auteur avec Lola Reinertz de 100 ans de musique à la Nouvelle-Orléans, paru aux éditions Le Mot et le Reste il y a 2 ans. Nous sommes également avec Aurélie Godet. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire des États-Unis à l'Université de Nantes. Alors, on est en plein Mardi Gras là, à la Nouvelle-Orléans et le Mardi Gras, la date du Mardi Gras, elle était fixée cette année au 13 février, donc hier. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé hier, Aurélie Godet, dans les rues de la Nouvelle-Orléans, comme chaque année, pour Mardi Gras?
Oui, effectivement, Mardi Gras, c'est une journée très riche à la Nouvelle-Orléans, dont on ressort en général très fatigué, puisque c'est une journée de gros défilés, les défilés notamment de Zulu et de Rex. Donc lors de ces défilés, les personnes costumées sur les chars lancent à la foule des rangs de perles en plastique, des gobelets, toutes sortes d'objets au son des fanfares, hein, les marching bands. ou de gros tubes hein, du carnaval comme Carnival Time ou Mardi Gras Mambo. Mais il y a également des, voilà, en marge de ce carnaval officiel, de ces grands défilés, il y a également des groupes à pied, de nombreux groupes à pied qui font la part belle à la créativité individuelle, donc avec des tailles voilà, de groupes plus réduites. Donc je pense ici à la Société de Sainte-Anne et puis évidemment aux Black Indians dont on parlera aujourd'hui. Et là, effectivement, on a des traditions qui sont très différentes et parfois inconnues des touristes qui viennent à la Nouvelle-Orléans pour Mardi Gras.
Parce qu'ils sont dans les marges, ils sont dans les ruelles à côté du défilé officiel, où ils l'ont longtemps été en tout cas, ces Indiens noirs qui se regroupent en tribus et qui commencent leur procession dans les ruelles. Okay, so make sure you get the big chief the moment he steps out. Stay a while, man, just long enough to establish you. But come back quick so we're sure we got the chief. Alors il faut imaginer ces Black Indians avec leurs costumes chamarrés de plumes, de perles et de sequins. Éric Douady, qu'est-ce qu'ils ont d'indien, ces Black Indians ?
Ben, c'est ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la Nouvelle-Orléans, vous l'avez dit, j'insiste là-dessus, c'est vraiment la ville des marges de l'Amérique. Et les musiques de la Nouvelle-Orléans, on peut pas les comprendre si on comprend pas que c'est plus, beaucoup plus que de la musique. Ça va au-delà de la musique, c'est une culture, c'est du sacré, c'est des liens sociaux, des liens familiaux, des formes de solidarité. Donc, c'est beaucoup plus que du son. Et les Black Indians, c'est ça, et ils font du, c'est des Afro-Américains, mais qui se reconnaissent des liens avec les natifs. Alors, historiquement, parce qu'ils sont issus du marronnage, hein, souvent c'est des esclaves qui étaient en fuite, qui ont été recueillis par les Indiens, donc beaucoup de métissage et de liens culturels. Voilà.
Il y a à ce sujet plusieurs hypothèses. Aurélie Godet, ce qui est sûr, c'est que les Indiens noirs de la Nouvelle-Orléans sont majoritairement des hommes issus de plusieurs quartiers ouvriers de la ville, Trémé, Carrollton et autres. Mais pour expliquer pourquoi ces Noirs se revendiquent comme Noirs indiens, quelles sont les hypothèses qu'on formule en général ?
Oui, donc effectivement, il y a des débats hein, sur les origines de ces traditions, et parce que la documentation est très très parcellaire. Mais effectivement, donc il y a le socle de l'esclavage, c'est évident, et sans doute des rencontres entre Amérindiens et Africains au sein des communautés marrones de Louisiane, ou dans le creuset de révolte, hein, comme celle des Natchez en 1729, ou dans l'espace public néo-orléanais. Et ensuite, il y a eu une sorte de requalification des autochtones en gens de couleur à la fin du 19e siècle, ce qui fait qu'on a perdu en fait la trace de ces métissages. Beaucoup d'Indiens se sont vus requalifiés de noirs. Donc à partir de là, voilà, la culture native disparaît des recensements, et donc ça devient beaucoup plus dur de retracer la nature de ces métissages. Mais il y a effectivement d'autres hypothèses, comme celle par exemple de l'influence des Wild West shows sur le type de costumes arborés par les premiers Black Indians.
Vous voulez dire les spectacles itinérants du Buffalo Bills Wild West Show qui venaient souvent dans ces villes de Louisiane et qui auraient peut-être donné des idées, parce que c'était toujours très entraînant dans les villes et les villages que ce Buffalo Bills Wild West Show.
Voilà, il restait plusieurs semaines et ils défilaient eux-mêmes dans les rues. Donc, ça a pu influencer effectivement l'identité visuelle et notamment les couronnes de plumes, les tabliers, plutôt que les peaux et couvertures que portaient les nations autochtones de Louisiane en réalité. Donc, il y a un imaginaire de l'Indien des plaines qui a pu effectivement se mélanger à des traditions festives plus africaines.
Éric Douady, c'est vrai que ces costumes, ces pratiques indiennes mimées par les Noirs de la Nouvelle-Orléans ne ressemblent pas à celles des Indiens de Louisiane, c'est vraiment celles des Indiens des plaines, les Sioux, les Cheyennes. Vous vouliez dire quelque chose ?
Non, c'est juste les premières tribus, donc les gangs qui se sont formés. On parlait du, Aurélie Godet mentionnait le Buffalo Bill Wild West Show. C'était les Creole Wild West, Yellow Pocahontas. Donc c'est vrai, ça fait vraiment référence à ça. Hein. Leur nom, les noms qui sont donnés font vraiment référence à ça.
Vous voulez dire les noms des groupes qui sont constitués, oui, voilà, dans les marges du carnaval font référence vraiment à cette histoire-là, oui. Et font référence à ces Indiens qui restent dans l'imaginaire collectif américain des figures, une figure de résistance au colonialisme. Vous citiez Aurélie Godet les Indiens Natchez, notamment, qui ont été de grands adversaires des Français à l'époque où la Louisiane appartenait à un territoire français plus large, la Nouvelle-France, jusqu'en 1763. Et il se trouve qu'on recense la toute première édition, entre guillemets, le mot est peut-être un peu trop fort, une première occurrence de carnaval à la Nouvelle-Orléans en 1699, à l'initiative de qui, Aurélie Godet ?
Effectivement, la fête est attestée dans les archives depuis la fin du XVIIe siècle, dans notamment le journal de Pierre Lemoine d'Iberville, frère du fondateur de la Nouvelle-Orléans, Jean-Baptiste Lemoine de Bienville. Et dans son journal, donc, il précise qu'un Te Deum a été chanté le jour de Mardi Gras au lieu baptisé Pointe du Mardi Gras sur la rive d'un bayou qui s'appelle également Bayou du Mardi Gras. Donc effectivement, la tradition est attestée depuis longtemps en Louisiane. Ensuite, on a quelques petites traces ponctuelles. On a une lettre datée de 1725 d'un père capucin à sa hiérarchie qui se plaint du fait que les colons louisianais respectent moins le carême que le carnaval. Et puis, on a une trace archivistique qui est quand même beaucoup plus intéressante pour les historiens. C'est celle qu'on trouve dans un récit de voyage d'un employé de la Compagnie des Indes, Marc-Antoine Caillot, qui mentionne dans ce récit une mascarade à laquelle il a participé et qu'il a organisée en plein milieu de la révolte des Natchez, justement, donc en 1730. Il y a une sorte de parenthèse dans son récit au cours de laquelle il parle de lundi gras et de son déguisement de bergère et d'une procession vers un bal masqué dans le Bayou Saint-Jean, précédée par des esclaves qui portent des torches. Et donc là, avec cette idée que les esclaves portent les torches mais ne sont pas masqués, on trouve comme une première trace de l'exclusion en fait des Africains du carnaval.
Et quand la Louisiane est vendue aux États-Unis par Napoléon en 1803, à quoi ressemble ensuite le carnaval tout au long du XIXe siècle ? Est-ce que les notables de la ville, blancs et anglophones, se l'approprient eux aussi ? Surtout, comment se l'approprient-ils ? Parce qu'on sait qu'ils se l'approprient.
Oui, c'est ça. Effectivement, le carnaval devient très nettement une fête des élites blanches au XIXe siècle. Et la tradition d'un défilé de chars le jour de Mardi Gras, ça débute en réalité en 1857. Avant, on avait plutôt des bals de carnaval. Donc là, l'élite blanche s'approprie l'espace public pour défiler à bord de chars tirés par des mules. Et on observe encore la présence d'esclaves porteurs de torches, qu'on appelle les flambeaux, pour permettre aux spectateurs d'admirer le défilé, puisqu'il a lieu en début de soirée. Et donc, à partir de là, à la suite de cette parade, le carnaval devient très nettement un outil de domination, un vecteur d'idées suprémacistes, hein, puisque les familles blanches confédérées après la guerre de sécession, celles qui ont perdu la guerre, utilisent le carnaval pour se moquer de leurs opposants politiques et notamment des gouvernements, du gouvernement interracial qui a été élu après la guerre de sécession.
Et un tout petit mot aussi pour savoir quand le carnaval va commencer à créer des rancœurs, à devenir aussi un moment de violence à la Nouvelle-Orléans.
Oui, quasi immédiatement après la fin de la guerre de sécession, dans les années 1870, là, le carnaval vraiment organise une compétition sur le terrain, alors une compétition qui est symbolique, mais qui déborde parfois dans la vie réelle avec une révolte, notamment celle organisée par un groupe suprémaciste blanc, la Crescent City White League, en 1874. Et là, il y a un lien très clair entre la parade de carnaval qui a eu lieu l'année précédente, qui se moquait à la fois de l'œuvre de Darwin et de la reconstruction, du gouvernement de reconstruction, et puis cette révolte, donc cette violence physique qui s'observe dans les rues moins d'un an plus tard.
Et avec aussi, vous le racontez dans vos travaux, les Irlandais qui s'en prennent aux communautés noires, deux communautés pauvres et ouvrières qui s'affrontent. Les Irlandais étaient à l'époque considérés comme les Noirs d'Europe. Aujourd'hui, il ne s'agit plus tellement d'affrontements entre bandes rivales. Le carnaval reste néanmoins un moment de violence, comme le raconte ici un Big Chief, parce que les Black Indians sont composés de plusieurs tribus fictives avec un Big Chief à leur tête.
Ce qu'on voit là, c'est un jour normal à la Nouvelle-Orléans. C'est une scène de meurtre. On voit 6 balles sur le sol. Un homme est étendu par terre. Une mère pleure. Elle est en colère. Son fils est étendu par terre. Elle sait qu'il a fait du mal, mais elle pleure. Elle savait que ça allait arriver. Et si tu voyais ton fils étendu là, tu comprendrais aussi.
Alors vous nous disiez, Eric Douady, vous nous rappeliez que la Nouvelle-Orléans est une ville des marges, c'est une ville où la violence a toujours cours, mais particulièrement pendant de longues années, pendant le carnaval, est-ce que c'est aussi à cause de ces violences qui éclatent toujours pendant le carnaval autour du Mardi Gras que certains groupes, pendant très longtemps, n'étaient pas autorisés à défiler ?
Oui, Aurélie peut sans doute mieux répondre que moi, de par son travail historique. C'est vrai que, si je reviens sur les Black Indians, c'est à ce moment-là aussi que, fin du 19e siècle, qu'ils apparaissent, c'est après la guerre de sécession. Beaucoup d'entre eux sont aussi... on parle de violence, mais on fait la guerre de sécession. Il y a aussi cette culture-là. Il y en a qui étaient parmi les fondateurs des premières tribes. C'était ils faisaient partie du corps d'Afrique, hein, c'est-à-dire des soldats noirs qui combattaient pendant la guerre civile. Donc il y a cet élément qui est au cœur de leur culture. Et ça n'est que progressivement que cette violence s'est euphémisée et est passée à travers un affrontement sur les esthétiques, on va dire, sur les costumes.
Donc c'est ça, c'est un affrontement esthétique aujourd'hui, la parade des Black Indians.
Aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, jusqu'à la guerre, c'était quand même des affrontements entre gangs, quoi.
Aurélie Godet, comment d'année en année les Black Indians se sont appropriés toujours un peu plus l'espace public, se sont faits de plus en plus visibles dans le carnaval?
Oui, alors il y a eu de grandes figures comme Alison Tutti Montana, Donald Harrison, qui ont vraiment voulu faire sortir la culture Black Indian de justement cette violence physique, cette confrontation physique permanente, et la transformer en culture, en compétition plus esthétique. Donc cette sublimation de la violence, elle a quand même eu lieu sous l'influence de quelques grands Big Chiefs. Et puis, par ailleurs, la ville progressivement a découvert aussi les Black Indians et jusqu'à en faire l'étendard d'une forme de résilience dans l'après-Katrina. Donc tout ça, c'est un processus qui s'est étalé sur une cinquantaine d'années, on va dire, qui ont permis à la culture Black Indian d'acquérir le statut prestigieux qu'elle a aujourd'hui.
Alors statut prestigieux, tout en négociant, est-ce que c'est antinomique, je ne sais pas, mais en tout cas les Black Indians ont négocié d'année en année avec la mairie pour pouvoir avoir accès à cet espace public sans se faire molester à chaque fois par la police. Comment ont-ils négocié ?
Alors ça s'est fait par l'intermédiaire d'activistes qui ont travaillé réellement avec la mairie et les forces de l'ordre pour écrire par exemple des livrets à l'usage des policiers pour qu'ils comprennent la nature de cette tradition et que le fait de défiler sans permis est propre à la tradition et que ça n'allait pas changer. Donc effectivement, il y a certains militants ou travailleurs sociaux que j'ai pu rencontrer sur le terrain m'ont décrit leurs échanges avec la mairie et la réalisation notamment de ce petit livret qui est passionnant parce qu'on découvre vraiment justement comment on peut parler de la tradition quand on est extérieur tout en étant allié.
Eric Douady.
Ah oui, c'est fascinant cette histoire de livret, je connaissais pas.
Vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, le dernier affrontement, c'était en, si je ne m'abuse Aurélie, c'était en 2005, affrontement, justement, une charge de police, parce que le rassemblement était pas autorisé. Enfin, ils n'avaient pas demandé les autorisations, quoi. Voilà.
Et mais donc la police n'avait pas compris. En tout cas, c'était encore balbutiant, les discussions.
Et puis après, il y a eu Katrina, etc. Donc, et après, ça a été l'emblème de la culture. Les Black Indians ont été l'emblème de la culture, de l'incarnation de la culture de la Nouvelle-Orléans. Donc, c'était beaucoup plus difficile de les expulser, de les exclure.
Les policiers qui, très très longtemps et toujours encore, procèdent à des contrôles, des interpellations, quand elles tombent sur ces défilés à la marche du carnaval. Les policiers qui, de toute façon, sont partout à la Nouvelle-Orléans pendant le carnaval. Il faut bien sûr aussi assurer la sécurité.
That's it, midnight. Anyone else gets murdered now, it's an Ash Wednesday killing.
Gentlemen, New Orleans just had a one murder Mardi Gras. And that happened after the parades and nowhere near the festivities.
C'est un chef de la police de la Nouvelle-Orléans. C'est un extrait de la série Trémé sur la Nouvelle-Orléans et sur ces groupes de musique et ce carnaval qui se prépare dans la Nouvelle-Orléans d'après Katrina. Et ce chef de la police dit, c'est incroyable, il est minuit, on est mardi gras, il n'y a eu qu'un seul meurtre. Donc tous les meurtres qui auront lieu après minuit seront comptabilisés pour le mercredi décembre. Éric Douady, ces policiers, est-ce qu'ils sont toujours légitimes auprès de la population de la Nouvelle-Orléans et des carnavaliers, eux qui ont abandonné pour beaucoup leur poste pendant Katrina? L'eau montait, les policiers fichaient le camp, dans les prisons aussi. Il y a également eu des crimes racistes. La police a tiré sur une famille noire qui traversait un pont pour fuir les inondations. Est-ce que ces policiers sont toujours légitimes aujourd'hui pour être des interlocuteurs, notamment des Black Indians et du carnaval en général?
Ah ben la question de la police et des rapports avec les noirs, en fait, aux États-Unis est beaucoup plus large que ça. Et c'est vrai que c'est un problème public. Depuis un moment, ce qu'on voit, le moment de Katrina était vraiment un moment de grande tension, parce que c'est les quartiers les plus populaires qui ont le plus souffert de la catastrophe. C'est aussi parce que les télévisions américaines montraient en boucle des noirs qui pillaient des magasins, etc. Donc il y a les médias aussi qui entrent en jeu. C'est un moment qui a révélé ce qu'on a appelé ce racisme systémique qui continue d'imprégner cette société américaine, et ça a été un moment qui est en lien avec Black Lives Matter. Après, on a vu des groupes de Black Indians qui ont participé au mouvement
Black Lives Matter. On les entendra tout à l'heure d'ailleurs avec vous, puisqu'on parlera spécifiquement de la musique de la Nouvelle-Orléans et des Black Indians tout à l'heure. Aurélie Godet, Katrina, le carnaval de 2006, donc à peine quelques mois plus tard, avait été maintenu à l'époque. À quoi il ressemblait? C'était une sorte de grand événement de catharsis collective.
Oui, donc certains grands défilés n'avaient pas eu lieu cette année-là. Zulu avait décidé de ne pas défiler.
Zulu. Oui, pardon, allez-y, je vous en prie.
à l'inverse de Rex et d'autres groupes. Mais c'est vrai que surtout 2006 a été une année où, en l'absence de touristes, les résidents de la Nouvelle-Orléans se sont retrouvés avec de nouveau un carnaval communautaire, un carnaval pour eux-mêmes, et un carnaval qui a fait effectivement figure de catharsis, où il était plutôt question d'honorer les morts. C'était quasiment un carnaval hommage, en fait, qui célébrait la mémoire de la ville. Et suite à ce carnaval, les Black Indians sont effectivement rentrés dans l'imaginaire des médias américains, notamment comme un emblème de la résilience.
Il fallait honorer la mémoire des morts, mais il fallait aussi en rire. On a entendu pendant le Katrina et vu des défilés d'hommes, pendant le carnaval d'après Katrina, il y a eu des défilés d'hommes en gilet de sauvetage. Il y a eu un char avec Neptune, dieu de la mer qui entre dans notre salon, c'était écrit sur les pancartes, tous les acteurs locaux caricaturés, le maire, le gouverneur de Louisiane, tout le monde y est passé. Éric Douady ?
Oui, je voulais juste rajouter, ça montre bien aussi, enfin, il faut rappeler que cette contre-culture des Black Indians est très très méconnue, longtemps était très très méconnue du reste des États-Unis. Les Américains connaissaient pas ça, c'était complètement... insoupçonné en fait. Hein. C'est, et vous mentionnez la série Trémé, c'est notamment la série qui a popularisé ça, y compris auprès des Américains qui n'y connaissent, enfin qui soupçonnaient même pas l'existence de ce truc-là, quoi.
J'ai perdu 4 costumes pendant Katrina, mais je remercie Dieu parce que certains de mes costumes étaient sur mon lit, et mon lit était dans l'eau pendant 2 semaines. Heureusement, les autres étaient au-dessus du lit. Ceux qui étaient en dessous ont été trempés.
Avant Katrina, je sortais pour le carnaval pour m'amuser seulement. Mais aujourd'hui, ça a du sens. Ça a un vrai sens pour toute la ville.
Le Big Chief avait perdu ses 4 costumes. Un Big Chief parmi toutes les, tous ceux qui représentent les tribus des Black Indians. Ces costumes, il faut en parler, Aurélie Godet, toujours plus beau, toujours plus fou d'année en année. Le coût que ça doit représenter, parce qu'ils fabriquent vraiment tous leurs propres costumes sans machine à coudre. Ils y passent combien de temps ?
Oui, alors on va, c'est toute l'année, alors pas au même rythme forcément, tout s'accélère évidemment dans les dernières semaines avant Mardi Gras, mais c'est un travail, oui, d'un an pour un costume qui mobilise alors les ceux qui vont le porter évidemment en premier lieu, mais également leur entourage. Hein, il faut pas oublier que c'est un travail quand même plus collectif autant qu'individuel. Les épouses, par exemple, des Big Chiefs sont elles-mêmes de grandes couturières. Elles aident dans la confection des broderies, sur les tabliers. La famille entière, hein, les cousins, les oncles, les tantes, enfin, tout le monde se retrouve autour d'une table pour aider ceux qui vont porter les costumes à être prêts dans les temps. Et Dieu sait que certains ne parviennent pas tout à fait, le jour de Mardi Gras, à avoir un costume complet.
Et vous écrivez que la valorisation du statut d'Indien se fait sans doute pour ces Black Indians au détriment de leur ascension socio-économique, parce que ça leur prend un temps fou, ça coûte des milliers de dollars, mais elle leur apporte en contrepartie la reconnaissance et le respect de leur voisinage. Comment ont été considérés dans les années 50 et 60, en plein mouvement des droits civiques, comment on les a considérés, ces Noirs grimés en Indien ? Par tous ceux qui se battaient pour la reconnaissance des Noirs et qui voyaient des Noirs mimés, soit des Indiens, soit des Zoulous, puisque vous parliez du Zoulou Club et on peut donner plus de détails.
Oui, parce qu'effectivement, dans les années 50, les Black Indians sont encore inconnus de la majorité des Néo-Orléanais. Et donc, ce ne sont pas eux qui vont être ciblés lors du mouvement des droits civiques pour leur... ce qu'on pourrait qualifier avant l'heure d'appropriation culturelle. On pourra en débattre peut-être plus tard. Mais effectivement, c'est plutôt le groupe Zoulou qui est un club, un social aid and pleasure club, donc un club qui vise à l'aide mutuelle entre ses membres. Donc c'est ce club-là qui va faire l'objet des principales attaques parce qu'on estime qu'effectivement sa pratique du blackface, ou qui est en réalité peut-être plus un whiteface, parce que les Zoulous se griment en blanc, se moquant des Noirs. Donc il y a deux couches de peinture, en réalité, il y a la peinture blanche et la peinture noire par-dessus. Cette pratique du blackface ou whiteface est jugée comme offensante, notamment pour les activistes, les militants des droits civiques qui tiennent à démontrer la dignité et la respectabilité de leur cause.
Et peu
donc à
peu,
à ce moment-là, effectivement, Zoulou est en danger.
Et il se vide et on décide même de l'ouvrir aux Blancs pour perdurer, c'est encore le cas ?
Alors oui, tout à fait, c'est encore le cas. Donc effectivement, le nombre de membres de Zoulou a décliné très fortement dans les années 60 jusqu'à atteindre le chiffre de 16, hein, 16 membres.
Ah, c'est d'accord.
Un tout petit club.
Ce sont tous de tout petits clubs de toute façon. On parle là à des échelles toutes petites. La Nouvelle-Orléans est immense, mais même les quartiers sont petits, les groupes sont petits.
C'est vrai, il y a cette dimension provinciale malgré tout de la ville, mais Zoulou, aujourd'hui, c'est des milliers de membres. Hein, donc, on est quand même passé d'une grosse organisation à une toute petite organisation, au point que Zoulou a abandonné brièvement le blackface, en réalité, pendant un an, au cœur des années 60. Mais ensuite, ils ont de nouveau... Ils en ont fait leur marque de fabrique de nouveau à partir de 1967. Ils ont jeté des ponts avec l'Afrique du Sud pour éloigner justement ce spectre de l'appropriation culturelle du mot Zoulou. Et c'est une organisation surtout qui s'est embourgeoisée avec le temps, qui s'est ouvert au, qui s'est ouverte aux Blancs et qui a intégré le calendrier officiel du carnaval à la fin des années 60. Donc il y a eu de gros changements au sein de l'organisation lors de cette décennie cruciale pour la ville de manière générale.
Eux défilent dans le carnaval officiel. Éric Doidy.
Oui, je voulais juste rajouter le coup du social club, ces cercles d'entraide et de solidarité, et c'est la même chose hein, qu'Aurélie disait tout à l'heure avec les costumes des Black Indians. Dans le costume, hein, il y a toute la famille qui intervient. Donc, c'est vraiment, pour insister, c'est vraiment l'aspect social de cette musique. C'est toute une communauté qui est à travers ces pratiques de défilés, de musique, etc. C'est des liens familiaux très forts. À la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment des familles qu'on retrouve alors chez les Black Indians, chez les rappeurs d'aujourd'hui, et c'est des liens, c'est les liens sociaux qui sont primordiaux dans cette, les liens du collectif, quoi.
Et Aurélie Godet, les Black Indians, aujourd'hui, combien à peu près comptent-ils de membres et comment ils se recrutent les uns les autres?
Alors, on estime le nombre actuel de tribus ou de gangs à une quarantaine. Alors, certains de ces groupes sont plus importants que d'autres. Ça va en gros de 5-6 membres à une vingtaine, voire presque 30. Donc, c'est de taille très variable selon qu'il y a 1, 2, 3 chiefs, 1, 2, 3 queens, etc. Mais alors, pour ce qui est du recrutement, on est effectivement toujours quand même dans un recrutement familial ou au sein du quartier, de la communauté. Mais il y a quand même une certaine ouverture de la tradition à des profils un petit peu plus différents. Donc, c'est aujourd'hui, on trouve des avocats, des médecins, des directeurs d'école parmi les Black Indians. Donc là aussi, il y a une certaine mobilité sociale qui se fait, qui alimente la tradition et puis que la tradition permet aussi.
Mais qui se caractérisent tous par la couleur de leur peau. Ils sont tous noirs. Je crois qu'il y a eu un blanc dans les années 80.
Voilà, un anthropologue norvégien qui effectivement a défilé avec les Golden Eagles des années 70 à 95, hein, donc sur une assez longue période de temps. Mais bon, on est dans l'exception. Là. Effectivement, c'est une tradition qui reste noire. Mais encore une fois, il n'y a pas une communauté noire à la Nouvelle-Orléans. Il y a des traditions noires créoles. Et puis, il y a les descendants de ce qu'on appelait au 19e siècle les noirs américains. Donc, ceux qui parlaient anglais étaient plutôt protestants. Donc, il y a des influences diverses qui forgent cette communauté noire de la Nouvelle-Orléans.
Et eux aussi ont leur groupe pendant le carnaval?
Alors, pour ce qui est notamment de la tradition créole noire de la Nouvelle-Orléans, là, il y a notamment des bals de débutantes, en fait, qui à l'image des bals de débutantes créées par l'élite protestante blanche après la guerre de sécession, il y a eu donc création de bals exclusifs pour des familles qui désirent que leurs jeunes filles, notamment leurs filles, fassent rentrent dans la société créole. Donc là, il y a aussi des hiérarchies sociales à l'œuvre au sein du carnaval. C'est un monde totalement différent, celui des débutantes créoles et celui des Black Indians.
Est-ce que les Black Indians aussi se griment le visage, se maquillent? Il me semble qu'il y a une règle au carnaval qui est de ne pas porter... Enfin, il y a eu longtemps une règle de ne pas porter de masque ou quelque chose comme ça. Les organisations carnavalesques qui n'étaient pas reconnues par la municipalité n'avaient pas le droit de porter le masque pendant le carnaval et donc n'avaient pas le droit non plus de se maquiller. Est-ce que les Mardi Gras Indians ou les Black Indians, on les appelle... De ces deux façons-là, se grime également. Est-ce que ce débat, dans quel terme est-il posé aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans, ce débat de se grimer, de mimer presque de prêter le flanc à l'image caricaturale fantasmée des Zoulous dans un cas, mais des Africains de toute façon, de façon plus générale?
Oui, alors paradoxalement, le Mardi Gras, donc c'est le seul jour où légalement les carnavaliers peuvent revêtir un masque. Donc le masque est possible et même, tout à fait légal et je dirais même obligatoire dans certains groupes. Et certains Black Indians vont porter un masque qui couvre le visage, c'est le cas de la tribu Faiaiai, et puis d'autres choisir plutôt de la peinture pour le visage, ou certains avoir le visage entièrement découvert et non peint. Donc il y a vraiment des traditions différentes de ce point de vue-là, mais effectivement, quand on se peint le visage, on le fait dans une sorte de rituel. Les Black Indians le font le matin de Mardi Gras dans une atmosphère très, très solennelle qui peut rappeler effectivement des rites autochtones, pour le coup, ou africains.
Et ça fait encore débat, alors pas entre eux, j'imagine, mais avec qui ça peut faire débat aujourd'hui de reprendre ces clichés ou caricatures des Blancs pour en faire ce carnaval ?
Oui, donc là, au sein de Zulu, là, la pratique, effectivement, du blackface ou whiteface, elle fait toujours débat. Chaque année, on a les mêmes articles dans les médias locaux et nationaux, parce que maintenant, si on habite Seattle, on sait que les Zoulous existent quelque part à la Nouvelle-Orléans le jour de Mardi Gras. Et donc, c'est plutôt à l'extérieur même de la ville que le débat a lieu, parce que ceux qui résident à la Nouvelle-Orléans depuis quelques années ou ils sont nés, pour eux, ça ne fait plus débat. On s'attend à ce que Zulu, que les membres de Zulu se peignent le visage, c'est admis, et on ne voit pas ça justement comme de l'appropriation culturelle ou de la... On ne voit plus ça comme quelque chose de problématique, en tout cas.
Alors, le carnaval de la Nouvelle-Orléans n'est pas, n'est pas loin, s'en faut, dominé par les Black Indians. Leurs percussions résonnent surtout à l'échelle des quartiers qui traversent tout cela, ça fait sur des petites échelles, mais ils ont tout de même laissé une empreinte sur plusieurs générations de musiciens de la Nouvelle-Orléans. Et c'est l'objet de notre focus tout de suite avec Eric Douady.
France Culture, Culture Monde. Julie Gacon.
The song also calls the spirit down.
La chanson aussi appelle l'esprit. Les percussions maintiennent cet esprit en mouvement. Vous jouez d'un instrument, vous chantez, et ça fait que quelque chose de physique se passe autour de vous. Les gens ne comprennent pas forcément ce qu'il se passe. Vous chantez ces chansons que des hommes ont chantées il y a des centaines d'années. Ce sont les mêmes chansons. C'est là qu'il se passe quelque chose.
Le témoignage de Gang Flag Big Easy des Hard Head Hunters, les chanteurs à la tête dure, extrait du documentaire We Won't Bow Down, nous ne nous inclinerons pas, qui date de 2020. Eric Douady, vous avez écrit ce livre, New Orleans, 100 ans de musique aux éditions Le Mot et le Reste. On va parler. Qu'est-ce que je me suis dit?
Co-écrit,
avec Lola Reinhardt que l'on salue. Les Black Indians, est-ce qu'ils se sont toujours appuyés sur la musique, sur une certaine musique pour leur défilé? Est-ce qu'il y a une musique Black Indian?
Alors, c'est une musique. Alors, il y a de la vie d'abord. Il y a de la rue et c'est des chants d'abord et puis des percussions, des tambourins, des cloches, des sifflets, des choses comme ça. Pas d'instrument au départ. Hein. Et c'est une particularité de cette musique, c'est qu'elle a d'abord été enregistrée dans une forme commerciale, on va dire, avec une instrumentation selon les modes jazz ou funk. Et puis, c'est progressivement, c'est au bout d'un moment que seulement qu'on a enregistré des vrais groupes de Black Indians dans des practices, donc dans c'est des séances d'entraînement qu'ils font le dimanche à partir de l'automne pour le carnaval, quoi, enfin pour les événements du carnaval. Mais la forme, on va dire, traditionnellement, dans les musiques traditionnelles ou ethniques, on va d'abord enregistrer la forme la plus pure, authentique, entre guillemets, quoi, voilà, et puis après, ça va devenir commercial. Là, c'est presque l'inverse avec les Black Indians.
C'est le procédé inverse. Alors, il y a une chanson qui a à coup sûr été chantée hier ou qui le sera dans les prochains jours, c'est Aiko Aiko. On connaît bien la version des Dixie Cups. C'est une chanson qui a été reprise des dizaines et des dizaines de fois, et c'est celle de James Sugar Boy Crawford qu'on entend là. Elle date de 1953.
Aiko, aiko, hande, jagamo filo handande, jagamo pinane. Oh, my spy boy met your spy boy, sailing by the bayou. my survivor, a duel of your survivor. I'm gonna set your flag on fire. Talking about head now, head now. Haiko, haiko, hande. Giacomo, filo, handande.
1953, James Sugar Boy Crawford. Qui est Sugar Boy, Rick Dwoddy?
Bah, c'est un chanteur de rhythm and blues, hein. Enfin, ce qu'on appelle le rhythm and blues, c'est rien d'autre que du rock and roll avec, voilà, de l'époque, hein. C'est toutes ces musiques qui sont nées en grande partie à la Nouvelle-Orléans. Et cette chanson, les gens comprennent pas ce qu'ils chantent, bien sûr, parce qu'il fait référence, en fait, c'est des chansons des Black Indians qui vont à la bataille, quoi. Donc, ils marchent vers, ils cherchent le gang adverse, et à un moment, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les Black Indians, les tribus sont très hiérarchisées, il y a des rôles, donc il y a le Big Chief, dont on a beaucoup parlé, c'est celui qui a la respectabilité, voilà, qui est un peu le patriarche le patron, quoi. Et puis après il y a le spy boy, qui est le petit gamin qui va au devant pour à l'affût des autres tribus, quoi, voilà, pour la bataille. Et donc Sugar Boy Crawford, dans sa chanson, il raconte, voilà, mon spy boy a vu le tien, et puis j'ai enflammé ton drapeau, voilà.
Là, il a 19 ans quand il chante, il enregistre chez lui avec une bande de gens de son âge. Aiko, aiko, anei, Jack, homofina, anamei, Jack, homofina, anei. C'est vrai que ce sont des exhortations auxquelles on ne comprend pas grand-chose, qui semblent exprimer, écrivez-vous dans votre livre, l'approbation, la satisfaction, l'encouragement. Et Crawford a en tête ces battles dans lesquels se lancent les tribus concurrentes au moment des parades du Mardi Gras.
Oui, alors on parlait de la musique, hein, de leur musique, hein, leur musicalité, elle vient aussi de cette répétition de sortes de mantras, on va dire, enfin de mots qui font pas beaucoup de sens, qu'on fait pas partie de cette culture, quoi, voilà. Et il y a ça, il y a l'appel et réponse, hein, avec quelqu'un qui lance un truc et puis les autres qui répondent, et puis le rythme syncopé, quoi, voilà, ça fait vraiment ça. Et ça c'est repris vraiment dans cette chanson, et cette chanson, Aiko Aiko Giacomo, Aiko Aiko, c'est devenu un peu l'hymne du carnaval de la Nouvelle-Orléans. Quand on va au festival de jazz de la Nouvelle-Orléans, c'est la chanson qu'on entend au début, quoi, voilà.
Sugar Boy qui disparaît de la scène en 1963, qui n'en révélera la raison que 40 ans plus tard. Il s'était fait tabasser par la police lors d'un contrôle routier banal. On en revient à notre sujet de tout à l'heure. Alors Sugar Boy ne se revendiquait pas, à ma connaissance, lui-même comme Black Indian. Les premiers à se revendiquer ainsi, c'était les Wild Magnolia. Smoke my peace pipe, fume mon calumet de la paix, mais smoke it right, fume-le correctement, des Wild Magnolia, avec cette soul que l'on entend. Le titre date de 1974. Eric Dwoddy, qu'est-ce qui convainc à l'époque Barclay, le label d'Eddie Barclay, de les produire?
Oh, c'est une longue histoire. Mmh. C'est un titre à double entendre aussi, parce qu'il y a une connotation sexuelle, voilà, évidente. En fait, c'est une découverte un petit peu fortuite d'un jeune producteur, je crois qu'il est suisse, Philippe Rowe, qui travaille chez Barclay et qui est fan d'un musicien de la Nouvelle-Orléans, Snook Siglin, un guitariste, superbe guitariste. Et il va à la Nouvelle-Orléans pour le trouver, et puis en chemin, il rencontre ces Black Indians, quoi. Voilà, et il est totalement abasourdi parce qu'il était à mille lieues de soupçonner l'existence de ce truc. Et donc, cette séance, et après, il rentre, il convainc Eddie Barclay de publier, de le laisser enregistrer, de lui donner un budget. Et là, cette séance a lieu à Bogalusa, à quelques encablures de la Nouvelle-Orléans, dans la forêt, dans un studio. Et c'est la rencontre entre ces Black Indians et un groupe de la Nouvelle-Orléans, enfin la rencontre, ils se connaissent quoi. Enfin, le groupe de Willie T,
un pianiste,
qui a eu un succès notamment, enfin qui est un musicien qui compte dans la ville. Il y a Snook Siglin à la guitare, il y a Uganda Roberts à la batterie. Enfin, c'est des musiciens de rhythm and blues, de funk aussi. Voilà. Donc c'est la naissance du funk des Black Indians quoi. Et avec ce disque. Alors c'est, si je peux rajouter, c'est pas les premiers à s'en revendiquer, parce que dès les débuts du jazz, hein, des musiciens qui ont créé le jazz, je pense au pianiste Jelly Roll Morton de la Nouvelle-Orléans, il racontait dans une interview pour Alan Lomax, pour la Bibliothèque du Congrès, que dans sa jeunesse, il avait fait partie d'une tribu de Black Indians, qu'il avait été spy boy. Et c'est une culture qui vraiment va infuser dès les débuts du jazz, aujourd'hui jusqu'au rap, quoi. Voilà.
Est-ce que beaucoup vont partir de la Nouvelle-Orléans dans les années 1910 pour remonter le Mississippi, aller au-delà encore de Kansas City, bifurquer vers Chicago et faire de la musique à Chicago, ou beaucoup restent à la Nouvelle-Orléans?
Ah ben dans le jazz, oui, c'est une autre. Alors là, c'est l'histoire du jazz, oui.
Mais est-ce que donc les Black Indians infusent aussi dans ce jazz-là?
À travers Jelly Roll Morton, à travers ces musiciens. Là, Champion Jack Dupré qui a vécu en Europe aussi, Professeur Longuerre, voilà, tous ces musiciens-là qui ont été les architectes du rhythm and blues dans les années 50, quoi, 40-50.
Alors c'est voilà. Wild Magnolias que l'on écoute, il se présente régulièrement sur scène avec les costumes de Mardi Gras, ça se fait ça?
Ouais, alors
on leur veut beaucoup pour ça.
Alors il y a eu eux, il y a eu après, juste après eux, il y a eu les White Chupitulas, de Chupitula Street, qui est, parce que c'est des gangs de territoire, hein, donc souvent ils ont les noms des rues, quoi, de leur quartier, comme aujourd'hui les rappeurs d'ailleurs. Et les White Chupitula, c'était les débuts des Neville Brothers, c'est la famille des Neville Brothers, avec leur oncle Big Chief Jolly. Donc il y avait les Wild Magnolias, les White Chupitulas, et eux, c'est à partir de ce moment-là, le milieu des années 70, les Américains ont commencé à découvrir cette culture-là. Il y a eu des documentaires qui ont commencé à être faits, etc. À partir de 80, ils sont produits au, les Wild Magnolias se sont produits, ou Chupitulas se sont produits au festival de jazz. Et il y a eu un débat interne au mouvement sur le fait que ces costumes qui sont sacrés, c'est pas simplement des costumes de scène, quoi. On peut pas les emmener sur la scène du festival de jazz de Montreux. Ça, c'est un débat interne entre eux, voilà, parce qu'il y a le côté sacré de cette
musique. Côté sacré, donc on leur en a beaucoup voulu. On leur a dit qu'il manquait de respect aux costumes, aux ancêtres, à qui ces costumes sont censés rendre hommage. Il y a des gardiens de la tradition aussi pour les Black Indians de la Nouvelle-Orléans. Alors, on fait un petit saut dans le temps. Éric Douady, aujourd'hui, il y a encore des groupes qui incarnent musicalement les Black Indians. On peut par exemple écouter Chawa. Chawa et son Fender Rhodes, My People, c'est une chanson qui date d'il y a 2 ans seulement.
Poor people under the bridge at night. Oh yeah. most people know what it takes to survive. My people know how to do it and thrive. Oh yeah. My people, we've been left behind before. My people, devil's knocking on your door. My people, said so many had to go. My people, and we still here. And one day we gonna all be in the same.
My people du groupe Chawa, et dans le clip on voit des musiciens habillés en indien, en parure traditionnelle et coiffe à plumes, des costumes vert fluo, bleu turquoise, rose fuchsia qui dansent dans un cimetière qui paraît perdu au milieu des bois, puis dans une salle de concert, puis dans les rues. Et vous nous disiez, Eric Douady, que les groupes aujourd'hui qui incarnent musicalement les Black Indians ont évolué aussi en même temps que la société et les débats de société. Comment Chawa s'est mêlé au mouvement Black Lives Matter?
Mais Chawa, c'est, alors à l'origine c'est pas des Black Indians, hein, mais c'est si vous voulez, c'est les nouvelles générations, donc ils sont de la même manière que leurs aînés étaient aussi porteurs de revendications, de fierté aussi, de dignité. Bah eux c'est pareil, et ils sont assez naturellement, parce que c'est leur âge, hein, ils sont dans ces mouvements, c'est leur expérience, c'est pas leur âge, hein, c'est leur être noir aux États-Unis aujourd'hui, dans le sud des États-Unis en plus, c'est quand même toujours une expérience particulière, quoi, qu'on a du monde social. Donc voilà, donc ils mettent ça à travers leur musique, et comme je disais tout à l'heure, il y a cette dimension collective dans la musique. C'est pas seulement des notes, c'est la voix de la communauté, c'est le son de la communauté, on le fait ensemble, et donc ça transparaît. Donc il y a Chawa, il y a plein de groupes aujourd'hui, hein, il y a les 79ers Gang qui sont venus, qu'on a vu l'année dernière au festival de jazz de Nancy, je crois. Il y a Juan Pardo qui va venir au festival Musique de la Nouvelle-Orléans en Périgord cet été, et ailleurs peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a c'est une scène vraiment vivante aujourd'hui, et vraiment en prise sur son époque. On n'est pas dans le passé, la tradition, etc. C'est vraiment une musique qui évolue en prise avec son époque.
Aurélie Godet, pour conclure, le fait que cette musique étant évoluée, que des groupes aujourd'hui qui ne se réclament pas des Black Indians se soient aussi appropriés ou véhiculent l'esprit des Mardi Gras Indians dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que à un moment il y a une inquiétude, est-ce que le discours va être dépolitisé, est-ce que on va muséifier entre guillemets les Black Indians, où en est ce débat-là aujourd'hui en 2024?
Oui, effectivement, ce sont des traditions qui plaisent de plus en plus, qui sont de mieux en mieux connues et qui, du coup, attirent l'œil forcément des directeurs de musées ou d'autres institutions qui vont forcément un peu la lisser et en faire perdre parfois le potentiel revendicatif. Donc, effectivement, ce sont des choses dont les participants de ces groupes sont très conscients. Ils ont peur de la commercialisation, de la musification de leur travail festif.
Merci.
Et c'est cette dynamique qui fait tout l'intérêt justement du carnaval actuel.
Merci beaucoup Aurélie Godet d'avoir été avec nous pour en parler. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en histoire des États-Unis à Nantes Université. Merci beaucoup Eric Douady, sociologue, auteur avec Lola Reinhardt de New Orleans, 100 ans de musique, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est la revue de presse internationale. Revue de presse présentée par Ninoc Louis. Alors la colère des agriculteurs s'est temporairement calmée en France, on en a beaucoup parlé dans Culture Monde, mais pas en Espagne ni en Inde.
Plusieurs autoroutes ont à nouveau été bloquées hier par les tracteurs en Catalogne et en Andalousie pour la deuxième semaine consécutive, avec des revendications très similaires à celles des agriculteurs français. Sur la concurrence déloyale, les lourdeurs administratives, les agriculteurs espagnols alertent aussi sur les pertes qu'ils subissent.
En mes últimos dos años, tenemos unas pérdidas, por ejemplo, con el cereal de un 40%.
Ces deux dernières années, j'ai perdu 40% de ma récolte de céréales. L'an dernier, nous avons eu la sécheresse, une ruine. On aurait dû produire 4000 kilos de céréales, on n'en a produit que 1000, disent ces deux exploitants agricoles espagnols sur Euronews. Contrairement à ce qui se passe en France, ces manifestations sont organisées pour la plupart indépendamment des syndicats agricoles, remarque El País, et désormais indépendamment aussi de la plateforme 6F, de plus en plus connotée à l'extrême droite. Ce mouvement parallèle a réussi à mobiliser les agriculteurs dans un premier temps en relayant massivement les appels à manifester via TikTok, Telegram et WhatsApp. Mais sa porte-parole, Lola Guzman, a fait polémique, rapporte Cadena Ser. Elle a qualifié les policiers qui ont empêché des agriculteurs affiliés au mouvement de bloquer sans autorisation une autoroute de criminels. L'ETA a tué quelques-uns d'entre vous, a-t-elle aussi déclaré, provoquant l'indignation générale. Les agriculteurs catalans mobilisés hier ont donc tenu à se démarquer de la plateforme, lit-on toujours dans El País. Les syndicats, eux, reprennent la main. Ils doivent rencontrer demain le ministre de l'Agriculture. Autre problème, même conséquence en Inde, où des milliers d'agriculteurs marchent en ce moment vers Delhi, raconte la BBC, à l'appel de 250 syndicats agricoles. Ils réclament des prix garantis pour leur récolte, une pause dans le remboursement des emprunts. Les autorités ont transformé la capitale en forteresse et l'ont barricadée à l'aide de fils barbelés et de blocs de béton pour empêcher les manifestants d'entrer, détaille le média britannique. Car il y a 4 ans, ces mêmes agriculteurs avaient occupé les rues de Delhi pendant des mois pour protester contre un projet de réforme de l'agriculture. Le gouvernement leur avait alors fait un certain nombre de promesses non tenues, rappelle Times of India. Les paysans sont aujourd'hui venus réclamer leur dû.
Les travailleurs d'Europe du Sud, Ninoc Louis, sont de plus en plus précaires.
Un chiffre fait la une au Portugal, 251 000, le nombre de travailleurs qui cumulent 2 ou 3 emplois, du jamais vu depuis au moins 2011, au plus fort de la crise économique, détaille l'hebdomadaire portugais L'Expresso. Il y a aussi plus de travailleurs en contrat précaire qu'il y a 10 ans, et ce, malgré la mise en place en 2023 par le gouvernement socialiste d'une réforme pour un travail digne. La plupart de ces travailleurs précaires ont un niveau d'éducation faible, ils travaillent dans le secteur des services, de l'hôtellerie, du tourisme, rapporte le journal. La problématique est la même en Italie, souligne l'hebdomadaire éponyme L'Espresso. Il y a du travail, mais sous-payé, et pas pour les jeunes. Il n'y a jamais eu autant de personnes employées, lit-on dans le magazine, surtout depuis la période post-Covid. Sauf chez les 15-34 ans, ils sont 300 000 de moins à travailler depuis 2012. Certes, ils sont aussi moins nombreux dans la population générale, concède L'Espresso, mais ce n'est pas la seule explication. Les jeunes en ont marre de donner de leur temps pour des salaires faibles et des conditions de travail difficiles, illustrées justement dans cet autre reportage du magazine consacré aux facteurs intérimaires italiens. Ils enchaînent les contrats courts, les horaires décalés, les heures pas toujours déclarées, avec au-dessus de leur tête cette épée de Damoclès. Vous savez si votre contrat sera renouvelé quelques jours seulement avant son expiration, raconte un facteur d'Émilie Romagne. Il faut tout endurer et oublier vos vacances. Et si depuis le XXe siècle, de nombreux Italiens ont traversé l'océan Atlantique, espérant y trouver une vie meilleure, le marché de l'emploi qualifié aux États-Unis ne fait plus rêver non plus, constate Bloomberg. Dans cet article, relayé par Courrier International, on apprend que les géants de la tech licencient à tour de bras moins 32 000 postes en un mois. Les licenciements étaient autrefois tabous dans la Silicon Valley, ils font maintenant partie du quotidien, même quand les entreprises vont bien, constate Bloomberg. Alors pourquoi ces suppressions de postes? Deux explications avancées par le New York Times. Les entreprises ont embauché à tour de bras pendant le Covid et tous ces emplois ne sont plus nécessaires. Et l'intelligence artificielle change les priorités des firmes. Résultat, ces employés qui pensaient avoir trouvé un travail à vie se retrouvent sur le carreau en attendant un prochain boom de l'industrie technologique.
Vous concluez votre revue de presse Ninoc au Kazakhstan où les chevaux sont victimes d'une mystérieuse maladie.
Dans les steppes du centre du pays, ils meurent par centaines, rapporte le média Eurasianet, balayés par une infection qu'aucun vétérinaire n'a réussi à identifier. Compagnon de route, de sport, symbole national, le cheval occupe une place essentielle dans la culture kazakh et dans sa cuisine, rappelle Eurasianet. Cette mortalité pourrait donc avoir des conséquences économiques pour les éleveurs de chevaux à viande. Heureusement pour eux, souligne encore le média en ligne, le contexte leur est largement favorable, avec une baisse constante ces dernières années de la mortalité dans les élevages et une hausse de 7% de la consommation de viande équine en 2023. Les Kazakhs ne sont donc pas prêts de bouder leurs chevaux, ni dans la steppe, ni dans l'assiette.
Eh bien, bon appétit. Merci beaucoup, Ninoc Louis.